France Culture.
Par Anaïs Quien.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans toute une vie. Des vies en forme de portraits sonores d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et les suivantes. Avec les frustrés, les gnangnans, le cordon infernal, avec Agrippine et Cellulite, ces héroïnes agaçantes et pourtant si percutantes, elle a mis en scène les frustrations bavardes du XXe siècle finissant dans ses bandes dessinées. Julien Thèves et Jean-Philippe Navarre nous proposent aujourd'hui Toute une vie de Claire Bretéché ou L'art de se plaindre quand on a tout.
Je vais la faire avachie. Voilà. Elle aussi, comme c'est frustré, avec des grandes bottes.
Claire Bretéché, reine de la BD.
Manger par son sofa.
Julien Thèves, Jean-Philippe Navarre.
Et puis un verre de blanc. Je me souviens qu'on avait. On avait bu du bon blanc quand on était allé voir. Tout en parlant de Franquin, tout ça, tous ces dessinateurs qu'elle aimait.
Elle a des bottes.
Ouais,
elle était bien sapée.
Catherine Meurice.
Ses grandes bottes puis ses pantalons un petit peu.
Dessinatrice.
Voilà, évasée, là, qu'elle a beaucoup dessiné.
On a la flemme.
Mais c'est elle, hein. On a l'impression que c'est elle. Elle disait beaucoup je traîne. Elle traîne, voilà. Ouais, il faut l'entendre en parler, quoi. Elle a pas l'angle dans sa poche, quoi. C'est génial. Ça, c'est un truc, oui, vous me demandiez ce qui m'inspirait aussi d'elle, mais je crois que je vous parlais de la liberté, c'est aussi le. Elle avait pas le désir de plaire. On a l'impression qu'il y a une paire de gifles à chaque page, quoi. Et puis on en veut encore, on en demande. On la veut, notre petite gifle.
Tu parles d'une tuile. Je sais vraiment pas quoi faire.
Il faudrait pourtant te décider. Hein.
Raymond est plutôt contre.
Et toi?
Bah, le docteur a dit qu'après tous les ennuis que j'ai eus avec Stéphanie, vaudrait mieux...
Alors, qu'est-ce que tu comptes faire?
Bah, c'est qu'avec un troisième, je vais être obligée de m'arrêter. Hein. D'un côté, Raymond voudrait que je m'arrête, mais d'un autre côté, il y a les traites de l'appartement.
Et tu as envie de t'arrêter?
Bah, je sais pas. Mon chef me dit que si je m'arrête, c'est embêtant parce que je suis juste sur le point de monter d'un échelon.
Et qu'est-ce que tu en penses?
Raymond dit que c'est pas tellement intéressant de toute façon. Remarque, ma mère serait contente, surtout si c'était un garçon. Il y a que des filles dans la famille.
Mais toi?
Oh, moi, tu parles d'eux, ça me suffit largement, mais c'est Raymond.
Bon, oublie Raymond 5 minutes. Qu'est-ce que tu veux, toi?
Bah, je sais pas. L'avortement, le pape est contre.
Quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, j'étais tellement imbibée de bande dessinée traditionnelle où c'était des hommes que j'avais de la peine à faire des filles. Il fallait que je me force. Parce que moi, je les dessine simplement comme ils sont, enfin comme on est. Il faut permettre une identification, sinon c'est pas possible. C'est pas quand on voit Barbarella qu'on va s'identifier à Barbarella. C'est un penseur.
Meet the most beautiful creature of the future. Jane Fonda is Barbarella. Barbarella is a 5-star, double-rated astronavigatrix Earth girl whose specialty is
love.
Oui, mais vous, les filles, êtes-vous véritablement conscientes de la finalité de votre action? Car votre lutte n'est ni plus ni moins celle des travailleurs dans une perspective marxiste-léniniste.
Ça se peut. Nous, ce qu'on veut, c'est la libre entreprise.
Pas très branché au niveau politique. Voyons, vous contestez la pourriture d'un système qui autorise la prostitution pour en tirer du fric par le biais de la répression.
Justement, nous on demande de pouvoir bosser tranquille sans être tout le temps emmerdé.
Mais vous bossez aussi pour des proxénètes. Alors pourquoi n'abordez-vous jamais le problème du proxénétisme dans vos revendications? Vous êtes des travailleurs exploités par un patron, oui ou non?
T'as pas l'heure?
15h20.
Eh bah dis donc, Kiki, comment ça se fait que t'es pas au boulot? On n'est pas un jour férié?
Je parie que pendant ce temps-là, ta nana fait du secrétariat pour te permettre de penser. Arrête-moi si je dis des bêtises.
Les mecs, toujours.
C'est presque moche, ce qu'on regarde, là.
Non, il y a des machins, des borborygmes, des gouttes, des trucs, et c'est la beauté absolue.
Est-ce qu'on est dans la caricature?
Oui, oui, c'est de la caricature. Les traits sont exagérés, gros nez, grosses fesses, les yeux très ronds, qui racontent un peu tout. Ben oui, mais c'est nous, c'est notre médiocrité. Oui, oui. J'ai vu Claire pour la première fois, on est allé chez elle, à Montmartre. Je connaissais son visage et cette fameuse moue assez intimidante. Et ma grande surprise, c'est que quand elle nous a ouvert la porte, il y a un sourire absolument lumineux sur son visage, jusqu'aux oreilles. Et elle a été charmante. Mais j'étais quand même très, très intimidée. Ouais. J'étais assise sur le bout des fesses tellement j'étais timide. Et je crois que je n'ai pas parlé pendant l'entretien. J'ai fait des croquis parce que c'était quand même mon travail. Moi, je devais faire les dessins pour ce portrait.
Tiens, il part. Je veux faire un type qui regarde si la personne qui est avec lui est bien partie. Mais j'y arrive pas. J'y arriverai probablement. Enfin, j'espère. Faut voir les corbeilles à papier pour voir vraiment comment ça se passe.
Quand je l'ai vu, j'étais absolument fasciné comme quand on voit une apparition. Elle a vu un charmant sourire et un signe de tête, alors que je n'étais rien pour elle, donc elle trahissait sa réputation de femme un peu froide et désagréable. Mais oui, c'était une. Elle était aussi belle que sur les photos.
Martin Véron, vous êtes l'auteur de L'amour propre ne le reste jamais très longtemps. C'est un album de bandes dessinées culte, et vous avez aussi publié un grand nombre de bandes dessinées avec votre personnage Bernard l'Ermite. Vous étiez un ami de Claire Bretéché.
C'était un tout petit milieu, comme un petit village, donc on se connaît assez rapidement. C'était en 80. À l'époque des tétrés, on sort dans les restos, dans les trucs comme ça. Moi, j'étais pas très balèze dans ce genre de truc. Donc on se voyait uniquement, on se croisait, il nous arrivait de nous croiser, de faire une dédicace ensemble, se retrouver à Bordeaux, des trucs comme ça. Et puis sinon, après, on est devenus plus proches, justement, à la naissance de Martin, parce que moi-même, j'avais des enfants du même âge et que...
Elle lui a donné le même prénom que vous,
voilà. Elle s'en est jamais expliquée, il n'y a pas qu'un seul Martin. Mais c'était presque une relation un peu familiale, comme une cousine. La femme était journaliste dans un magazine féminin, à elle exactement. Il y avait toute une bande qui était assez proche, entre Gérard Lozier, René Pétillon. J'ai rencontré de femmes aussi solides, aussi... qui savait ce qu'elle voulait, mais moi je l'ai vue quand elle était un peu grande, un peu star. Elle ne perdait jamais de temps à des conneries, même dans les conversations entre copains. D'abord, parce que chacun à la table vérifie d'un coup d'œil à Claire pour voir s'il n'a pas dit une trop grosse connerie quand même.
Écoute, c'est pas compliqué, moi j'ai rien à moi. Tiens, tu vois, c'est fou ce que ça me simplifie la vie de plus avoir de bagnole.
Et alors, comment es-tu venu jusqu'ici ?
Mais ça, c'est une voiture de fonction. Si c'était que moi, je viendrais en taxi. Tu parles. Moi, ça m'intéresse pas de posséder...
Ah bon ? Et ton appartement de 200 mètres carrés avec vue sur la Seine ?
Il est pas à moi. L'immeuble est à ma mère ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, j'y mets pas souvent les pieds. Moi, tu sais, je vis au jour le jour. Les gens dépensent beaucoup trop. Regarde par exemple, moi, j'étais au Maroc pour le week-end. Eh ben, devine combien ça m'a coûté. Dis un chiffre. 160 francs.
Tu rigoles, non ? Rien qu'avec le billet d'avion et l'hôtel, tu...
Oui, oui, oui. Non, mais ça, c'était aux frais de la boîte. Je te dis que moi, en tout et pour tout, j'en ai eu pour 160 francs.
On se demande ce que tu peux bien foutre de ton salaire.
Écoute, on pourrait pas changer de sujet de conversation. C'est un peu déplaisant de parler tout le temps d'argent, non ?
Puis c'est très marrant. Quand on avait une phase à sortir, et c'était discret, c'était très marrante. Et très sensible. Elle ne se racontait pas volontiers, mais il arrivait qu'en fin de soirée, à peu, elle racontait des choses extrêmement émouvantes sur sa jeunesse. C'était extrêmement touchant.
Elle vous a parlé de son enfance à Nantes, de ses débuts à Paris, quand elle est vraiment montée à Paris sans argent.
Je pensais à ces occurrences, justement. La première fois, c'est quand elle m'avait parlé de... Et là, c'était vraiment un bout de table, on était tous les deux, et là, entre quatre yeux, elle m'a raconté son père.
Je recevais beaucoup de trempes, oui. Je commence à oser le dire, mais j'ai eu très honte de ça pendant très longtemps. Je suis une enfant de la guerre.
Elle est née en 40, je lui ai fait prisonnier à ce moment-là, et est rentrée comme tous les autres qu'en 45. Et que la petite Claire est restée pendant 5 ans avec sa mère et ses sœurs, ou sa sœur, je ne sais plus très bien, en ayant une vie assez heureuse, et a vu rentrer un espèce de macho qui a dit... Bon, maintenant, c'est plus comme ça. Voilà la nouvelle loi. Mais Claire n'était pas du genre à se laisser emmerder.
Mon père est rentré d'Allemagne quand j'avais 5 ans. Alors, les rapports ont été très tendus. Alors, ça a donné des trempes.
J'espère que ça n'a pas donné que ça.
On vous élève dans l'idée que le monde est un truc extrêmement bien ordonné. Enfin, il y a la nature qui fait bien les choses, ou bien c'est le bon Dieu qui fait bien les choses. De toute façon, vos parents font bien les choses. Et quand on commence à prendre un peu de jugement, on s'aperçoit qu'ils font pas du tout bien les choses, que la nature fait pas bien les choses, que le bon Dieu fait pas bien les choses, que les parents ne font que des bêtises. Alors, c'est amusant.
Dis donc, Loulou et Brigitte ont quand même fini par se marier.
Qu'est-ce qui leur a pris ? Encore deux qui se retrouvent piégés, tiens. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ? Faut être maso.
Bah, et toi ?
Bah, et toi ?
Ouais, ouais, je sais. C'est-à-dire que c'est mieux, je sais pas, pour les impôts, pour les enfants...
Ne te fatigue pas. Moi, je vais te dire, je me suis mariée uniquement pour ma mère.
Ah, toi aussi ?
Tu comprends, elle ne supportait pas de me voir vivre en concubinage notoire. Ça lui donnait des spasmes.
C'est comme la mienne.
Il a fallu aller à l'église comme de juste. Un mariage civil, elle aurait eu une crise.
La mienne en serait morte.
On a eu droit à Mendelssohn. Ça a été impeccable.
On a eu Jésus, que ma joie demeure.
C'est pas la peine de se fâcher avec la famille pour si peu.
Ah, t'as bien raison. Et ton lardon, là, tu vas le faire baptiser ?
Sûrement pas. Tu rigoles, non ? J'estime que j'ai fait assez de concessions. Maman va en être malade, remarque.
Comment vous avez été élevée, vous ?
J'ai eu l'éducation classique, bourgeoise, catholique. Très, très classique, très bourgeoise et très catholique. Donc, grotesque. C'est sûr, quand on passe 15 ans de sa vie dans un collège de bonnes sœurs, on frise le grotesque tout le temps et on le rejoint la plupart du temps. Je prenais ça un peu comme un jeu, enfin, parce que c'était très folklorique, c'était une espèce de couvent gothique 19e, vous voyez. Il fallait faire des révérences tout le temps, enfin, je sais pas comment vous dire, il y avait une ambiance extraordinaire. Alors, il y avait un côté théâtre qui était assez passionnant. Enfin, maintenant, je suis très contente d'ailleurs d'y avoir été, je m'y plaisais énormément. C'était marrant, les bonnes sœurs étaient ce qu'elles étaient, mais enfin, c'était folklorique. J'étais très heureuse, enfin, au moins jusqu'à 15 ans, parce qu'à 15 ans, ça commence à devenir pesant.
Elle s'est beaucoup ennuyée, et donc, pour lutter contre l'ennui, elle s'est mise très très jeune à dessiner. Et elle copiait des histoires, des dessins. À 18 ans, enfin, après son bac, elle a fait des études aux Beaux-Arts de Nantes. Puis, elle est arrivée à Paris...
Isabelle Bastien-Duplex, on est à Montmartre, c'était le quartier de Bretéché. Donc on est au tout début des années 60, 59, tout juste 59. 60. Elle va vivre de quoi ?
D'abord, elle enseigne le dessin dans un lycée. Mais elle disait qu'elle n'était pas fortiche en histoire de l'art, elle ne connaissait même pas Picasso.
Donc l'enseignement, c'est pas vraiment fait pour elle, elle vit en colocation à Montmartre.
Elle vit plutôt dans des squats. Elle était crade, elle dit.
Elle-même était crade.
Moi, ce qui me tue, c'est d'être coincé comme ça dans ma peau. Je voudrais tellement en sortir. Quelle angoisse.
Exactement comme moi.
Par exemple, j'aimerais savoir quel effet ça fait d'être une femme. Tiens, je voudrais être à ta place.
Tu te rends pas compte ? Moi, je peux pas me supporter. Je peux même plus me voir dans une glace. J'ai envie que d'une chose. Être quelqu'un d'autre.
Bah oui. Ce qui est affreux, c'est d'être seulement soi, quoi. C'est tellement limité. Tiens, je voudrais être Lucien Lemercier. Lui, il a une vie extra. Ou peut-être un sage hindou.
Ouais, moi, je voudrais être Gisèle Halimi. Je me vois très bien en Gisèle Halimi. Ou alors fermière.
Ouais, pas mal. Moi, j'aimerais être Picasso. Remarque, c'est plus possible. Il est mort.
Et toi, tu aimerais être à la place de qui ?
De personne. Moi, je suis bien comme je suis.
Ce que je voudrais...
Être à ta place.
Donc elle est décidée quand même à vivre, pas de sa plume, en tout cas à vivre de ses dessins. Et elle court les rédactions, elle travaille je crois dans la presse catholique au début, pour le Pèlerin, chez Bayard.
Le milieu catholique elle connaît. Et surtout ils payent immédiatement. Et donc ils sont plusieurs dessinateurs à aller déposer des dessins, à attendre et à aller récupérer le bon à échanger à la caisse pour les dessins qui avaient été sélectionnés.
Dans bim pam poum, je serai bim, toi pam et poum. C'est ainsi que je t'imagine dans mes cartoons.
Bonjour, vous êtes Jean-Pierre Mercier ? Je suis Jean-Pierre Mercier.
Historien de la bande dessinée, comment Claire Bretéché s'inscrit-elle dans l'histoire de la bande dessinée pour vous ?
Ah bah, elle occupe une place éminente parce qu'elle arrive dans la génération, enfin dans les années 60, et elle participe au mouvement de tous ces auteurs qui sont Gottlieb, qui sont Mandrika, Druyer, Moebius, enfin tous les gens qui sont considérés aujourd'hui comme des classiques, après avoir fait une courte carrière de prof de dessin, c'était pas du tout pour elle, d'avoir croisé Goscinny, qui lui avait donné à illustrer une petite histoire qui s'appelait Le Facteur Rhésus, qui paraissait dans la deuxième version de Le Samuel qui avait relancé Pierre Dac après-guerre. Et elle a fait un petit tour par Spirou, où elle a fait quelques bandes déjà assez intéressantes, et puis ben, elle arrive à l'époque où Pilote éclate vraiment, et elle devient un des personnages, enfin la dessinatrice, parce qu'à l'époque il y en avait très très peu, la dessinatrice géniale qu'elle allait devenir. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement important, elle amène une forme d'humour qui est assez rare à l'époque, et en plus ben, elle est une femme.
Alors, on l'a inauguré gentiment sans l'année de la fa-femme ? Excuse-moi, je plaisante. Tu sais bien que je suis tout à fait partisan de vous laisser donner libre cours à vos revendications. Elles sont légitimes. Tout le monde en convient, nous ne sommes plus au 19e siècle. C'est notre devoir de vous aider à devenir des personnes à part entière. Je dirais même plus, c'est notre intérêt. Ah, je suis convaincu que notre société a besoin des valeurs féminines. Si, si, qu'elle a si longtemps méprisées. Assez du terrorisme machiste. Nous aspirons à une certaine douceur, une certaine sensibilité et même, je dirais, à un certain humour. Je dis bien un certain humour, car ne croyez pas que vous en êtes dépourvus, vous les femmes. Bien sûr, c'est un humour subtil, tout en nuances. Mais pourquoi la libération de cet humour spécifiquement féminin ne serait-elle pas une source d'enrichissement pour la société tout entière ? Nous sommes donc heureux de vous donner l'occasion de vous exprimer jusqu'au 31 décembre prochain et nous prenons note de vos desiderata. Sympa, non ? À condition, bien sûr, que vous ne vous dressiez pas contre nous. Mais vous n'en ferez rien, qu'à personne n'y gagnerait. Et puis, peut-être nous aimez-vous encore un peu ? Oh ! Patience, patience. Toi aussi, tu auras ton année. Va, mon gros.
Elle a expérimenté la bande dessinée pour enfants, elle a fait des séries, les gnangnans, qui sont faits. Les gnangnans, c'est vraiment tout à fait délicieux. C'est une petite série qui a été faite pour Spirou, qui sont des gamins entre eux. Alors, quand on connaît un peu la BD, on pense aux Pilotes. C'est des enfants qui sont entre eux dans la cour de récréation, qui font des bêtises et tout. Mais en fait, elle apporte à ça un esprit déjà assez corrosif. Il y a des histoires absolument hilarantes et avec un style graphique très simple, très rond. Et c'est là, je pense qu'elle est aussi très intéressante, c'est que c'est quelqu'un qui arrive avec un dessin qui est très marqué. Alors, elle est comme tous les dessinateurs de l'époque, elle a eu sa grande période Ronald Searle, elle a été très marquée par le dessin de Searle, qui est très connu pour les dessins qu'il a pu faire sur des chats, avec un trait comme ça extrêmement riche et très nerveux. Elle a été très marquée également par des auteurs américains qu'on a découvert un peu après, Johnny Hart, qui a un trait tout simple, enfin vraiment extrêmement efficace, très nerveux. Et en fait, l'itinéraire graphique de Bretéché, c'est de partir de ce dessin tout rond, tout nerveux, pour aller de plus en plus vers une forme d'élaboration qu'on va retrouver dans Agrippine, avec des décors qui sont incroyablement réalistes, avec des personnages qui ont des postures qui sont exagérées, mais qui sont extrêmement justes. Et je pense que la justesse, aussi bien de ton, de dialogue, que de dessin, c'est ce qu'il y a de plus important dans le travail de Bretéché. Il y a son regard, bien sûr, mais cette manière de rendre les postures des gens, de rendre les expressions, est extrêmement importante. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle fait... C'est Ludic, qui est son premier personnage vraiment marquant dans Pilote. C'est effectivement une fille de roi, une princesse du Moyen-Âge. Elle est moche, elle est bête, elle est envieuse. Et c'est un dynamitage absolument en règle de tous les clichés qui sont attachés aux figures féminines. Et son premier personnage est à contre-pied. Je trouve que c'est un cadeau qu'elle a fait. Et elle a été extrêmement importante comme modèle pour les dessinatrices qui sont arrivées après.
Pour moi, ce qui a été révélateur, c'est Lulith.
Vous aviez quel âge à ce moment-là ?
C'est Lulith, ça a commencé à être publié en 69. Donc en 69, j'avais 11 ans.
Jeanne Puchol.
Même mettons que je n'ai pas lu les toutes premières histoires, mais voilà, j'avais 12-13 ans. J'étais une adolescente mal dans sa peau. Quelle originalité ! Et donc évidemment, cette anti-héroïne de princesse revêche... je me retrouvais complètement dans ce personnage. Enfin, c'était insensé, on n'avait jamais vu ça en bande dessinée. Donc rien n'indiquait que c'était une femme qui dessinait cette histoire. Dans Pilote, à l'époque, donc, les auteurs étaient portraiturés. Je crois que c'est Alexis, en fait, qui avait fait les portraits de ses camarades. Et apparaissait dans un petit médaillon qui était au-dessus des pages. Et donc là, je vois Bretéché, puis je regarde attentivement, je me dis « mais c'est une femme !» Ça a été la découverte, grâce à elle, qu'une femme pouvait faire de la bande dessinée. Et je crois que du haut de mes 12-13 ans, je me suis dit « Ah bon, il y a une femme, donc je peux le faire, moi aussi !» Il y a le...
C'est chez vous ?
C'est sur le palier, l'homme de ménage qui passe l'aspirateur.
Pierre ne me comprend pas du tout. Forcément, il a ses affaires, il est toujours dehors. Moi, je suis à la maison avec les enfants, c'est normal.
Qu'est-ce qui est normal ?
Je veux dire, c'est un homme, quoi. Les hommes, c'est autre chose.
Comment ça, autre chose ?
Enfin, moi, je ne serais jamais capable de faire ce qu'il fait. Une femme, ce n'est pas pareil.
Pas pareil ?
Pierre dit que quand une femme a ses règles, elle n'est plus bonne à rien. Ni avant, ni pendant. Il a raison, remarque.
Ah. Je sais que c'est pas de ta faute, alors écoute-moi bien, Anna. Cas typique. Victime de la phallocratie. Chauvinisme mâle. Mythe de la virilité. Aliénation mentale, économique, affective. Écrasement de la personnalité. Complexe de castration. Temps de réagir. S'assumer. Dire merde à Pierre. T'aiderait. N'est plus seule. Sommes des milliers à lutter.
Oui. Tu as raison, mais comment faire ? Nous, les femmes, nous sommes tout de même plus faibles.
Catherine Meurice.
À son époque, Bretéché, les femmes étaient représentées dans la BD soit comme des bombasses, soit comme des mégères. D'ailleurs, elle-même le raconte, quand elle a proposé ses dessins à Goscinny, elle savait que Goscinny demandait à Uderzo de dessiner des jeunes femmes soit très, très mignonnes, Falbala, etc., ou Bonne Mine. Bon, Bretéché, elle est la première ou une des premières à avoir dessiné des femmes qui ressemblent aux femmes de tous les jours, quoi. Qui sont ni belles ni moches, qui sont en pantalon, il y a des bourrelets, il n'y a pas de bourrelets, il y a des chaussettes qui pendouillent, et c'est ça qui fait qu'on s'identifie, bien sûr.
Une fois de plus, dans celle que je lisais, mettant dans Pif, il y avait Tabary qui dessinait une série qui s'appelait Totoche, enfin c'était une série sur des titis parisiens, et il y avait un personnage de petite fille qui s'appelait Corinne et qui était une chippie. On était donc dans un certain forme de stéréotype. Bon, il faut voir que c'est quand même les années 70, des années assez folles quand même, où il se passe plein de choses, où il y a plein d'avancées. Et je pense que Pilote était le magazine qui était le plus raccord avec son époque parmi les magazines de BD. Donc il y avait la série de Christin et Mézières, Valérian. Et en fait, dès le premier épisode de cette série, qui était extrêmement novatrice, il y avait le personnage de Laureline, qui ruait dans les brancards, qui était féministe, qui n'arrêtait pas de se moquer gentiment de son camarade. Et qui a pris de plus en plus d'importance, en fait, dans la série, à tel point qu'à un partir d'un certain moment, c'était plus les aventures de Valérian, agent spatio-temporel, c'était Valérian et Laureline. Des contemporains du MLF, quoi. Tout d'un coup, le mouvement féministe arrive en France, et donc quelques auteurs de BD sentent cette ère de l'époque et le transposent dans leur création. Cela dit, ça n'a pas empêché Bretéché, Gottlieb et Mandrika de se sentir à l'étroit dans le cadre de Pilote et de s'en aller pour créer l'écho des savants.
Attention, Claire vue par Gottlieb.
Décris-la d'abord.
Bon, alors Claire vue par Mandrika.
Moi, je dirais les lacunes et puis mes avis.
Elle est blonde, elle a deux jambes.
En bas, hein, les jambes. Ouais. À partir des hanches jusqu'au sol, elle a deux jambes.
Tiens.
Et à partir du cou jusqu'en haut, elle a une tête.
Et alors,
et entre les deux, il y a un thorax, un abdomen et deux bras qui sont approximativement collés à la hauteur de ses épaules.
Ouais.
Le tout très harmonieusement placé.
Alors, je sais pas, moi, imaginez que vous soyez vachement amoureux de Claire et que vous écrivez...
Ouais, imaginez, on l'est, cette bonne blague.
Comment c'est de travailler avec Claire ?
Ben, c'est très simple, elle apporte ses planches et puis on n'a rien le droit de dire. Mais comme elle n'a rien le droit de dire non plus sur nos planches, donc tout se passe bien.
Attends, ça sous-entend qu'un jour vous avez dit quelque chose et qu'il s'est passé du...
Non, jamais, hein? On n'aurait jamais osé.
Non, il faut préciser que là, on parle de notre travail de collaboration au sein de l'écho des savanes.
Oui. Comment vous avez eu l'idée de faire ça tous les trois ?
C'est ce grand saucisson. Un jour, il a dit, j'ai envie de faire un journal, alors si vous voulez le faire avec nous, vous le faites, sinon vous allez le faire voir chez les Grecs. Et comme j'ai pas envie, moi, personnellement, d'aller me faire voir nulle part, et j'ai dit, bon, bah, je vais le faire aussi avec toi. Puis après, Claire a dû dire un peu la même chose, tu lui demanderas après.
Mais moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est que c'est vachement rare une femme qui bande dessine, non?
Oui, c'est rare.
C'est rare. C'est vrai qu'elles n'y ont pas pensé encore, mais. Très bien, il suffit qu'elles y pensent, elles le font.
Elle a bon caractère, Claire?
Elle est insupportable. Elle trouve que tout est effroyable. Son mot.
Terrible. Terrible.
Terrible.
Terrible.
Oui, les choses.
Je me suis fait chier.
Les choses se divisent pour elle en choses effroyables ou terribles.
Alors, des fois, elle dit c'est pas mal. Nous avons conclu qu'elle a aimé.
La BD pour adultes, c'est des choses vendues sous le manteau et cochonnes, mais des trucs qui parlaient de la vie. Alors, il y avait ça aux États-Unis, il y avait la contre-culture, elle avait inventé la bande dessinée, mais c'était plus déconnant, plus mais bien aussi. Mais chez Claire, c'était malin. Là, et adulte, elle montrait des trucs de. Bah, qu'on a fait envie de vivre, moi à 20 ans, je trouvais ça bien, ça m'excitait, je disais, vivant que je sois grand.
Dans le nouvel écho des savanes, les dessinateurs ne reculent devant rien.
C'est bien vrai ça.
Ni les pleurs, ni le suspense, ni l'action, ni l'amour, ni l'exotisme.
Je me demande pourquoi.
Dans l'écho des savanes, la BD, c'est Hollywood.
Brett Eschet va connaître la chance de sa vie, je dirais en 1973, quand on va lui proposer de publier une page chaque semaine dans le Nouvel Observateur, qui est l'hebdomadaire de référence à l'époque, l'hebdomadaire de la gauche progressiste intellectuelle. Et je crois que c'est Jean Daniel, le fondateur du Nouvel Obs, qui lui dit « Faites une page et critiquez-nous, moquez-vous de nous. » Et ça va devenir Les Frustrés. Elle va acquérir c'est un tel succès qu'elle va être reconnue rapidement comme la dessinatrice française... La meilleure sociologue de l'année, dira Roland Barthes.
Elle va, en 75, elle publie en auto-édition le premier album des Frustrés.
Oui, ben là, on voit encore la femme d'affaires. Faut pas la femme d'affaires, parce qu'elle déléguait beaucoup. Mais elle est quand même assez maligne pour échapper aux éditeurs. Mais là, il avait tout en main. C'est vrai qu'il fallait le faire. À partir du moment où il était dans des journaux qui n'avaient pas de maison d'édition derrière... Il avait une telle audience que ça valait vraiment le coup. Parce que à cette époque-là, c'était des palettes entières qui partaient. Donc c'était du velours.
Elle est abonnée à Marie-Claire. Dans Nouvel Obs, elle ne lit que Brett Eschet. Le monde y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile.
Les frustrés, ils étaient frustrés, mais en même temps, ils vivaient plein de choses.
Oui, parce que c'était des nantis. Je sais pas, je vois une galerie de portraits de trentenaires, quadragénaires, accédant au pouvoir, au pognon, à la parentalité, et échangeant leurs impressions sur en fait, qui se démerde le mieux dans l'histoire. Là, il se trouve que c'était parisien à cette époque-là. Mais que ça fera toujours autant marrer que Molière, que Balzac.
On dit que ce sont les ancêtres des bobos.
Oui, parce que l'appellation bobo n'avait pas encore été inventée, mais c'était des bourgeois bohèmes, ça leur convient très bien. Ces gens qui sont des bourgeois, mais pas comme on est bourgeois en province, pas comme on est bourgeois dans le 16e ou dans le 7e, bourgeois comme on l'est rive droite dans le 10e, le 11e, je veux dire, avec des jeunes gens qui ont fait 68. Et qui ne serviraient pas à l'idée peut-être de se dire de droite, même s'ils ont des comportements de droite.
Samantha a été invitée un week-end à la campagne chez une copine d'école. Elle est revenue odieuse. Odieuse! Il faut te dire que la copine, c'est la gamine des chaussures Albert. Alors, le tennis, la piscine, tu vois le genre. Odieuse! Alors je lui ai dit, écoute... Tu dois comprendre qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et que ce n'est pas très important. Nous, on n'en a pas tellement. Bon, c'est pas grave. C'est pas ça qui compte. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas avoir un cours. Le jardin est trop petit, tu peux bien aller au club comme tout le monde. Odieuse ! Alors je lui ai dit, écoute, nous, on ne peut pas avoir 3 voitures, alors quand maman a besoin de l'Austin, tu peux bien de temps en temps prendre un taxi avec Ingrid. Ou même un bus. Hein ? Après tout.
figure-toi que tu as de la chance d'avoir une jeune fille au pair pour s'occuper de toi. Mmh. Moi, quand j'avais ton âge, chez papy et mamie, il n'y avait qu'une bonne. Mmh. Alors mademoiselle ricane, prend des airs de martyr, la vraie gosse de riche, odieuse. J'ai beau lui expliquer qu'on n'a pas les moyens d'avoir une piscine à Paris, déjà bien beau qu'on ait celle des Galières, c'est comme si je pissais dans un violon. Je peux pas supporter que ma fille ait une mentalité élitiste. Avec les idées que nous avons, son père et moi, c'est quand même un comble. Il y a des fois où je me dis que j'aurais mieux fait de l'inscrire à l'école de la rue Paulbert. Ça lui aurait fait les pieds.
C'est toujours la même valeur de plan, plan moyen. Et ça discute, ça élucubre sur... Et toujours pareil, hein, ce dispositif du plan fixe, en fait.
C'est des cases en gaufrier.
Exactement. Elle pratique le gaufrier, elle pratique l'itération iconique, c'est-à-dire le fait de répéter un dessin pratiquement à l'identique. Et c'est des choses qui ont été théorisées beaucoup plus tard. Dans Bretéché, il n'y a pas d'action.
L'immobilisme des personnages qui passent leur temps à parler, à vacher dans un fauteuil.
Bon, ça, elle est très forte. Cela dit, le dialogue fait partie aussi du...
C'est aussi une écrivaine.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que raconter quelque chose à l'aide d'un dialogue, c'est propre à la bande dessinée. À partir du moment où on sort de l'image avec le texte en dessous, de la case légendée, on arrive dans un type d'écriture qui se rapproche de l'écriture théâtrale et où toute l'action, en fait, est menée par un échange entre personnages.
Classiquement avec des bulles, là, il n'y a pas de bulles. Il y a du texte qui semble flotter dans l'image et qui est parfois un monologue. Et ça parle, et ça parle, et ça parle.
Oui, oui. Et même quand il y a un dialogue, il y a quand même un personnage qui monopolise la parole et l'autre qui va répondre par monosyllabes ou en ayant de plus en plus de mal à essayer d'arrêter le flot verbal que l'autre déverse sur lui.
Jeanne Puchol, j'ai étalé devant vous sur votre bureau à Paris plusieurs albums de Bretéché que vous connaissez bien,
oui,
que vous connaissez tous.
Le merci à Giflé du Gaumont. Voilà. Et puis c'est ce génie avec les noms aussi. Le Mercier sans des pieds, le Mercier sans des pieds, et pof, la prof lui retourne une baffe, l'interdit absolu. Et donc elle s'en va. Et elle s'imagine être...
Elle a giflé l'élève, elle est mise au banc. Elle
s'imagine être complètement mise au banc.
Victime de la cancel culture.
Être traitée de nazi, de capot. On est des années avant la cancel culture, quoi. Et en fait, le gamin, là, Dugomo a une gifle. Hein, Dugomo, c'est vrai, c'est le Mercier qui a donné une gifle à Dugomo. Il est tout important parce que la maîtresse lui a collé une gifle, quoi. Et il sort comme un héros et il dit rien à sa mère, en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'a redouté la malheureuse Le Mercier en se disant il va en parler, je vais être viré de l'école, etc. Le môme est tellement gratifié en fait par cette gifle, parce que tous les autres gamins s'intéressent à lui, oh là là, mon pauvre, tout, voilà, elle t'a filé une gifle. Et il sort, là, il y a une case qui est hilarante où on le voit sortir de l'école avec les mères qui attendent dehors, en mode super-héros, en mode j'ai affronté le dragon et j'ai été vainqueur. Et alors, lapin, ça s'est bien passé aujourd'hui, dit la mère qui se penche sur lui pour l'embrasser. Oui, tu es tout rouge, tu n'as pas la fièvre, il est tout rouge parce qu'il s'est pris deux beignes. Non. Et puis voilà, et l'histoire se finit de manière complètement délirante avec la malheureuse Le Mercier qui en fait. Subit les assauts sexuels d'un collègue à elle, qui profite lâchement de cet instant de désarroi pour lui avouer qu'il a une réelle sympathie pour elle, et en fait de réelle sympathie se jette sur elle, mais littéralement, et il la trousse dans la salle des profs. Enfin, voilà, l'humour de Bretéché, à la fois à travers une pique contre l'enfant roi, l'enfant à qui on peut plus rien dire, mais qui lui se gêne pas de dire que la maîtresse sent des pieds, et les comportements excessif de ses contemporains, quoi. Ou du moins les fantasmes de comportement de ses contemporains. Non, c'est hilarant. C'est hilarant.
Nous sommes aux 4 rue Coustou, au pied de la butte Montmartre, et devant nous, un parking privé.
On entrait dans le parking pour monter chez elle, prendre l'ascenseur jusqu'au 5e étage. Et là, on montait un petit escalier et on sonnait et on arrivait donc dans son appartement. On longeait la terrasse, petit jardin avec des arbres quand même, pommiers, une grande table où on déjeunait parfois. Et au bout, du côté nord, un petit escalier et de là, on voyait le Sacré-Cœur et une vue magnifique. Mais c'était relativement vaste, donc quand on était... Et de l'autre côté, il y avait son atelier.
Je fais une espèce de découpage sommaire, c'est-à-dire, mettons, on a une idée, alors il faut
faire les étapes, qui le déroulement, en supprimant le plus d'étapes possible. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit le plus court possible et en même temps que ce soit explicite, évidemment.
Ça, c'est pas une planche, c'est un scénario qui comporte beaucoup de textes. Alors, j'écris quand même pas mal de trucs avant de m'attaquer au dessin.
Quand le dessin est plus important que le texte, c'est l'inverse.
Alors, quand le dessin est plus important que le texte, par exemple, alors je fais un truc complètement dessiné, comme ça. Alors ça, c'est le premier découpage avec les premières attitudes, vous voyez. Quand c'est le texte qui est plus important, le personnage bouge pratiquement pas. Ou alors il se gratte le nez. Et quand c'est le dessin qui est plus important, par exemple, là, vous voyez, ça change tout le temps. Il n'y a pas une seule attitude où elle soit la même. Techniquement, j'utilise un papier très dur qui permet de gratter avec une lame de rasoir. Et je n'utilise pas de crayon. C'est-à-dire, je fais un dessin directement à la plume. Et si quelque chose ne va pas, je gratte. Par exemple, ça.
C'est dans le corps qu'on voit l'expression de la fille qui rit.
Là, elle rit, quoi. Mais il y a le corps aussi, bien sûr. Vous séchez.
Vous savez que le sèche-cheveux, jamais de buvard.
Non, parce que le buvard enlève de la profonde du noir. Enlève du noir. Ça fait un trait gris.
Alors, je prends ça.
Je prends le dessin qui est le plus satisfaisant ou le moins insatisfaisant. Et je le reprends par transparence jusqu'à ce que j'arrive au dessin définitif.
C'est-à-dire, vous le corrigez, là.
Bon, voilà. Si vous voulez, au lieu de faire le sous-dessin au crayon, je le fais à l'encre et je le refais jusqu'à ce que ça colle.
On est toujours à Montmartre avec vous, Isabelle Bastien-Duplex. On a quitté le bruit des valises à roulettes et des voitures sur les pavés pour se réfugier dans un bar d'hôtel en face du Studio 28, un cinéma que peut-être Brett Eschet fréquentait. On parlait des Frustrés, donc ça a été vraiment le grand succès, peut-être une œuvre essentielle et principale de Brett Eschet. Elle va arrêter à un moment donné de dessiner ses Frustrés. Elle va avoir d'autres envies, d'autres inspirations. Elle va raconter d'autres histoires.
Donc elle va, début des années 80, elle va arrêter. Elle dit qu'à cette époque, elle a pas mal d'amis qui sont enceintes ou qui accouchent. Et donc elle s'intéresse beaucoup aux mères. Parce qu'il faut savoir qu'elle est très sociable et qu'elle a beaucoup d'amis avec qui elle adore faire du shopping. Et à ce moment-là, elle n'a pas d'enfants. Et donc elle est vraiment passionnée par cet état. Et elle dessine donc une histoire, les mères. Enfin, ce sont des histoires.
Moi-même et beaucoup de mes copines arrivaient à 40 ans, ce qui à l'époque était la fin de tout pour avoir des enfants, hein, quand on n'en avait pas. Comme je pensais à peu près souvent à ça, je voyais des femmes enceintes partout.
Elle va s'emparer d'un certain nombre de sujets d'époque. Moi, je pense au destin de Monique, qui est quand même sur la procréation assistée. Docteur Ventus Bobologue, c'est sur le monde du soin, de la santé, la façon dont les gens sont avec la maladie. Les mères, c'est évidemment la nouvelle génération des femmes qui ont été féministes et qui sont confrontées aux problèmes de maternité, qui veulent ou qui ne veulent pas, les relations de couple compliquées autour de ça. Elle a vraiment radiographié, c'est un cliché, mais elle a vraiment regardé tout ça avec un œil extrêmement acéré. Et quand on le regarde avec le recul, maintenant, puisqu'on a ce recul, malheureusement, elle n'est plus là, on se rend compte qu'elle avait compris un certain nombre de choses, mais elle est de ce point de vue dans une tradition qui est très française, qu'on trouve chez Volinsky, qu'on trouve chez Rezer, qu'on va retrouver chez Martin Véron, qui sont des gens qui sont de sa génération et qui ont travaillé dans cette espèce de radiographie d'une société française qui est, alors Rezer était peut-être plus du côté de, on va dire, de la classe ouvrière ou des classes inférieures de la société. Dans le cas de Brett Eschet, comme dans le cas de Martin Véron, on est plus du côté de la bourgeoisie bien installée, bien nantie.
Chez Claire, c'est des gens qui ont tout, mais qui trouvent le moyen de se plaindre, ce qu'un peu elle était.
Martin Véron.
Je m'emmerde, alors que tout allait bien. Ouais.
C'est vrai qu'elle parle un peu comme ça.
Mais c'en était drôle. Une virée qu'on avait faite à Avignon, pour aller une dédicace, on était toute une bande d'auteurs, c'était plutôt sympa. On n'était pas descendu sur le quai, il dit, on s'emmerde, non? On n'avait pas commencé. C'était drôle.
On voit un personnage qui est assis, ou plutôt vautré, dans un fauteuil. Et justement, adopter ce dispositif permet de rendre la moindre variation du dessin extrêmement expressive. Et là, en fait, il se passe sur la deuxième partie de la planche, il se passe un truc extraordinaire avec les orteils de Marie-Hélène. Et donc, on voit cette femme qui est enceinte et qui raconte comment elle a été dépucelée. Enfin, c'est sordide ce qu'elle raconte, en fait, mais c'est dans l'air du temps. J'ai été dépucelée, la première de ma classe, et j'ai été la première à divorcer. Tout le monde m'a traitée de pute. On commence très fort, quoi. Et elle dit ça, l'air de pas y toucher, la Marilène. À 20 ans, j'ai fait mon premier reportage en Éthiopie toute seule avec ma chamelle. Les gens ont dit que ce n'était pas un comportement féminin. J'ai passé 2 ans à Berkeley, 3 à Pékin, j'ai traversé la Mandchourie à moto, et ils ont dit que j'étais instable. Après son troisième, ma sœur a fait de la poterie féministe, ils ont dit que maman avait de la chance avec elle. On sent là, avec très peu de choses, comment elle amène tout un tas de problématiques typiques quoi, des fratries et de la fille qui se sent rejetée systématiquement ou critiquée quoi qu'elle fasse. Quand j'ai fait mon One Woman Sex Show au Pigalle, ils ont dit que j'aurais intérêt à voir Lacan. J'ai monté mon entreprise de jeux électroniques et ils ont dit que j'étais arriviste. Si je prenais un môme sur mes genoux, ils disaient que j'étais en manque.
Si je prenais un môme sur mes genoux, ils disaient que j'étais en manque. Si je le prenais pas, ils disaient que j'étais aigrie.
Sylvie Testu.
Alors moi, pour me racheter, j'ai décidé d'en faire un avec Lucas, le fils aîné de ma nièce.
Yeah yeah. Dans 3 mois, je suis inattaquable.
Voilà. Je veux savoir quel effet ça fait. Comment on se sent?
Bien.
Et comment bien? Tu es là écroulée comme une méduse.
C'est difficile à expliquer. On ne sent plus cette chose, là, qu'on a sans cesse en temps normal.
Quelle chose?
Ah, tu sais, ce truc nerveux.
La colite?
Mais non. Ah, oh, c'est idiot, j'ai le mot sur le bout de la langue. Quelle angoisse.
L'angoisse?
Ah oui, c'est ça.
Toutes ces planches de cette période qui sont construites sur ce modèle d'une histoire en une page, avec ce principe de case carrée qui se répète pratiquement à l'identique, c'est très typique de ce qu'elle faisait, ce qu'elle a commencé à faire avec les frustrés, ce qu'elle a fait dans les années 80.
Sacré clair.
On peut parler d'Agrippine aussi un petit peu, c'est un peu son autre grande œuvre, parce que c'est une série aussi qui va s'étaler sur plusieurs années, comme Les Frustrés. Alors là, le personnage, c'est une ado qui aussi se plaint tout le temps.
Je crois que ça avait été beaucoup inspiré par ses belles filles, les filles de Guy Carcassonne. Dans sa vie est arrivé le petit Martin et puis ses deux grandes sœurs, qui étaient des adolescentes. Et je crois que Claire a été très nourrie par cette famille qui arrivait et que je pense que Agrippine n'y est pas étrangère.
Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis complètement obsédée comme Pouf, pas toi?
Non. Moi je me sens plutôt cosmotellurique molleton.
Pourtant, amure lyrique, plus sexe, plus bonne zik, ce serait giga, tu trouves pas?
Non, j'ai décidé d'être femme frigide.
Tu dis ça parce que t'es pas sexy? Parce que t'as pas de seins? Mais c'est pas grave, y a des barges qui aiment.
J'en connais pas. D'ailleurs, au lycée, y a que des grumeaux bouffis.
En tout cas, la première qui conclut avec un gnoll guy raconte tout à l'autre. Tu jures? Tu craches? Même Red collapse? Hein? On se décaisse pour prendre des notes.
Et j'ai filé ma trousse premier rapport offert par la Croix-Rouge à ma petite cousine pour qu'elle joue avec son babar.
Je t'en prêterai de la mienne. Oh, c'est nul qu'on n'ait pas des frères entre 16 et 18. On se laisserait échanger, ça aurait été giga.
On n'a même pas de demi.
Ça me dévaste de mixer des inconnus à notre vie privée.
Oui, donc on parle souvent de Roland Barthes, qui évoque Claire Bretéché comme la sociologue de l'époque. Et il y a Pierre Bourdieu aussi, justement, en parlant d'Agrippine et de ce langage, du langage qu'elle invente, hein, Claire Bretéché. Et donc je lis la citation. Claire Bretéché, excellente ethnologue d'un milieu très particulier, fait énoncer par son héroïne Agrippine toute une taxinomie nouvelle correspondant à des rapports de parenté absolument sans précédent. Faux demi, entre parenthèses frère, demi, double, double demi, demi-double, tout cela pour désigner toutes les relations de parenté qui sont rendues possibles par les remariages ou les, entre parenthèses, faux divorces. Pierre Bourdieu.
Donc les biomanes, c'est les parents. Fuck, ça vient de l'anglais fuck, va te faire foutre. Fèche, fait chier. Elle me fait troche, elle me fait trop chier. Laisse bouigue, égale laisse béton, laisse tomber. Stop, s'il te plaît. J'en ai pris plein la gueule. La cagoule, c'est le préservatif. Si tu fais ce soir, qu'est-ce que tu fais ce soir? Etc.
C'est
s'il avait reproduit le langage des petits trous du cul d'il y a 20 ans, il serait déjà complètement démodé et un peu con-con, et un peu comme ces croulants qui se penchaient sur la génération de ses vieux copains en essayant d'imiter leur langage. Non, elle a réinventé un truc. Mais c'était une dingue des mots, une dingue d'argot. Et c'est une grande lectrice.
Bonjour.
Bienvenue, alors.
On vient vous parler, Marie-Rose, de Claire Bretéchier, oui. Qui vivait dans le quartier.
Absolument.
Nous sommes chez vous, dans votre librairie, la librairie des Abbesses.
Oui.
Une librairie que vous avez fondée, je crois, il y a 23 ans.
Exact.
Et Claire Bretéchier, qui vivait dans le quartier, venait dans votre librairie.
Souvent le dimanche, d'ailleurs. Hein. Donc, je lui dois beaucoup à Claire Bretéchier, car dès que j'ai créé ma librairie, ça a été la première dédicace que j'ai organisée dans cette librairie. Donc, c'était sous une bonne étoile, sa venue. Et c'était pour la BD qui s'appelait Le Docteur Bobologue. Et alors, là où elle m'a fait beaucoup rire, c'est qu'on pensait qu'elle allait faire des dessins, tout ça. Non, elle est arrivée avec une énorme pile de feuilles de santé, d'ordonnances. Et donc, sa dédicace, c'était bon, vous appelez comment ? Elle marquait le nom de la personne. Elle signait Claire Bretéchier. Et on ne pouvait pas la déroger de cette idée qu'elle avait eue, qui était très drôle et tout. Et puis, donc, bien sûr, ça m'a porté beaucoup de chance parce que tout de suite, il y a eu énormément de monde. C'était mes tout premiers pas dans ce quartier. Et donc, après, j'ai eu affaire. On est devenus amis et j'ai eu affaire à la grande lectrice qu'elle était. Exigeante, difficile et qui avait un œil assez rapide sur tout ce qui se créait. Donc déjà, elle regardait tout de suite, d'abord quand elle arrivait, commençait à regarder les BD. Elle disait, non, il dessine super mal, lui, non, j'aime pas du tout. Ça, oui, ça, non, 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 non. Il y avait beaucoup de non. Et il y avait quelques oui, et quand elle disait un oui, je peux vous dire que c'était précieux. Je sais qu'elle avait vu un Taniguchi qu'elle aimait bien. Je crois que Riyad Sattouf avait commencé aussi à apparaître et tout, donc à l'époque où je la connaissais. Oui, ça, elle rigolait bien, elle avait vachement d'esprit et tout. Mais je vous dis, c'était la rapidité avec laquelle elle nous regardait aussi beaucoup les livres d'art. Et c'était une femme qui avait une vraie grande curiosité, un grand appétit pour la littérature. Donc elle aimait bien les anglaises, les américaines. Ison Lurie, David Lodge, Anita Bruckner, Kachishke, voilà, ces auteurs-là, vous voyez. C'était tous ces auteurs-là, ces grands romans anglais en même temps. Familiaux, social, humoristique, Philip Ross, voilà. Et oh non, celui-là, c'est une barbe. Quoi ? Parce que moi, j'essayais de lui conseiller de la dériver de ses idées.
Au revoir, merci. Bebe, j'ai fait la mûre.
Oh, merveilleux, ma chérie. C'était comment ?
Giga. Maintenant, je peux écrire un roman et retrousser un max de flots. Les liaisons dangereuses, genre.
Pourquoi les liaisons dangereuses ? Tu avais bien pris ta mallette. Tu avais bien pris ta mallette premier rapport, offerte par la Croix-Rouge.
Ouais. À vrai dire, je me rappelle pas trop parce qu'on a fumé du crack.
Je ne me le rappelle pas. Qu'est-ce que tu dis ?
Après, on est allé dans une boîte à partouze et là, je sais plus du tout ce qui s'est passé.
Je te le demande calmement, Agrippine. Nom, adresse, numéro des parents. Plutôt, je vais lui casser la gueule à ce petit con.
Mais ce n'est pas un petit con, c'est ton copain Bob. Papa, c'était pour rire ! Ah, tu n'as aucun humour ! Je fais le SAMU quand même.
Je l'ai recroisée quand elle a perdu son mari très brutalement. Guy Carcassonne, que je connaissais aussi. Alors là, j'ai réalisé que c'était comme quelque chose de très traumatique pour elle. Là, je l'ai vue vraiment, elle qui était si élégante, parce qu'elle était super chic, hein. Très élégante, très...
Bien si là... vous deviez la décrire, elle était comment ? Elle était grande, elle était...
Oh, bah, c'est une femme très fine, elle était très jolie, très fine. Vous voyez, tout était étudié. Il y avait une nuance de beige, de gris, des chaussures superbes, toujours des sortes de bottines un peu pointues, ses cheveux blonds un peu comme ça en bataille, mais quand même assez bien arrangés. Une jolie peau, les yeux bleus, une belle mèche blonde comme ça, vraiment une vraie, ce qu'on appelle une vraie gueule, vous voyez, taillée au couteau, quoi. Et en même temps, assez élégante, mais sans avoir l'air non plus tape à l'œil, pas du tout cheap, très chic, très très chic, très amie avec Sonia Riquiel, très amie avec Régine Desforges. Voilà, elle avait des copines comme ça, que je savais que c'était ses grandes amies. Et donc, alors elle était très folle des fringues. Alors elle me disait, ah, c'est quoi ça? Parce que moi, elle regardait beaucoup comment je m'habillais. Ah, mais c'est quoi ça? Ah, tu l'as acheté, chérie? Ah, j'aime beaucoup et tout. Donc, elle observait beaucoup.
Aujourd'hui, en bleu marine, avec un très beau collier bleu et des baskets.
Oui, oui. Tendance. Oui. Alors voilà, donc, elle était.
Et des boucles d'oreilles turquoise.
Voilà. Bah, écoutez, elle était très sensible au fait, à l'élégance dans les textes et au style. Voilà. Donc, j'avais le droit à ma note aussi sur ce plan-là. Et voilà, elle avait beaucoup d'humour, elle était pète sec. J'aimais bien son côté radical, on ne va pas s'embêter avec des rondes jambes. Beaucoup de caractère et en même temps extrêmement sensible. Au fond, elle avait, bon, elle savait bien ce qu'elle avait apporté hein, dans le monde du dessin, dans le monde de la bande dessinée. Puis moi, je l'ai rencontrée au moment où elle était indépendante. Elle avait décidé d'être complètement indépendante, de sortir des maisons d'édition, de se distribuer elle-même et tout. Puis après, elle m'a dit, c'est la barbe. Non, non, je vais revenir chez mon éditeur parce que c'est pas mon métier. J'en ai assez, quoi, de tous ces problèmes qui s'additionnaient à elle pour ce travail de distributeur, en plus d'éditeur, en plus de créatrice. Et ce qu'elle était, là où elle était très forte, c'était qu'au fond, elle aimait peindre aussi. Elle aurait voulu être une peintre. C'était surtout ça son désir. Et donc, je sais que quand elle a sorti un livre à la Martinière sur ses tableaux, alors là, je sais qu'on a fait une rencontre aussi avec elle. Elle m'a prêté un portrait qu'elle avait fait d'elle très jeune, pour la vitrine et pour la rencontre. Et là, j'ai vu l'importance que ça avait pour elle, en fait, la peinture. Elle avait beaucoup de distance vis-à-vis de ce métier qu'elle avait réussi à faire dans la bande dessinée. Mais son vrai désir, sa vraie passion, c'était la peinture. Voilà.
C'était vraiment l'idole des dessinatrices. Et puis, bah oui, j'ai compris en ouvrant les albums. Et je me suis dit, pourquoi je ne les ai pas ouverts plus tôt? Et voilà, c'était à l'époque où j'allais rentrer à Charlie Hebdo. Donc tout ça était un petit peu de la même famille, même si bande dessinée, dessin de presse, il y a quand même une frontière. C'est pas le même métier.
Mais comme vous, elle était dans le dessin de presse et ensuite elle a réuni en album ses dessins de presse.
Elle n'a pas fait de dessin politique, jamais. Elle n'a jamais fait de dessin d'actu. Je me souviens qu'elle m'avait raconté que dans les années 70, elle avait toqué à la porte de... C'était Harakiri, je pense, à l'époque, ou Charlie. Et elle avait rencontré l'équipe. Et Cavana lui avait dit un truc du genre « Soulève mes couilles, il y a de l'or en dessous, quoi ». Bon, elle avait tourné les talons, elle n'est plus jamais revenue. Voilà, et moi je suis rentrée à Charlie Hebdo, la première fois que j'ai été publiée, c'était en 2001, donc Cavana avait un peu vieilli, c'était assagi, pas forcément dans les textes, mais en tout cas avec l'équipe, et puis surtout la rédaction de Charlie Hebdo, c'était beaucoup féminisé. J'étais la première dessinatrice à rentrer, mais il y avait beaucoup de femmes rédactrices, journalistes, reporters, et ça changeait tout.
Elle vous lisait dans Charlie Hebdo?
Je ne sais pas si elle lisait Charlie Hebdo, elle aimait beaucoup Cabu. Même si elle n'a pas fait de dessin de presse, on peut la comparer au Wolinski, Cabu ou même Copy, GB, etc. C'est surtout des mecs hein, qui écrivaient merveilleusement bien. Enfin, Wolinski, il y a des aphorismes, il y a des strips où il a juste besoin de faire il y a un personnage avec un gros nez, une silhouette qui est présentée sur trois cases, et puis le texte prend toute la place, mais le texte est à tomber par terre, quoi. C'est poétique, c'est philosophique, c'est gonflé, c'est parfois féministe, on est un peu orphelin de ces grands auteurs, de ces grands écrivains, en fin de compte, Oui, Pétillon aussi, hein, ça va être très très bien écrit. Martin Véron, qui est encore là aujourd'hui, heureusement, est aussi très fin. Voilà, c'était des gens qui étaient cultivés plein de finesse et gonflés quoi.
La dernière fois que je l'ai revu, c'était à côté de la rue des Martyrs. Et elle m'a à peine reconnue, quoi. Elle m'a dit « Ah oui, Marie-Rose !» Elle dit « Je suis toute seule, c'est terrible, je suis toute seule, c'est une catastrophe. » Bon voilà, ça m'a beaucoup bouleversée. De l'avoir diminuée. Elle était belle encore, hein, mais diminuée, bien habillée, mais vraiment diminuée. Et ça m'a beaucoup bouleversée. C'est comme si ce qu'il y avait un peu dans son arrière-pays de mélancolique, ben là, c'était. Et qu'elle mettait en arrière-pays et en arrière-plan de toute la personne qu'elle était. Là, c'était ça qui était en premier plan, quoi. Et je voyais qu'elle avait un peu perdu la tête, qu'elle avait perdu un peu la mémoire. Donc, elle se promenait très, très peu toute seule. Hein. Formidable femme. J'ai vraiment que des beaux souvenirs et comme un modèle En plus, j'ai rien à voir avec elle finalement, ni psychiquement, ni physiquement, tout ça. Mais il y avait quelque chose dans sa liberté, voilà, qui était comme un modèle pour moi. Voilà, c'est ce que je lui disais. Alors, elle me disait, oh non, mais arrête, oh, qu'est-ce que t'es chiante. Enfin, elle aimait pas du tout qu'on la complimente, elle aimait pas du tout qu'on, voilà, qu'on la courtise, qu'on. Non. J'avais beaucoup d'affection pour elle.
Et vous aimiez ces...
C'est des dessins. Bah, c'est BD. Bah oui, j'ai pour ça. Quand je dis admiration, c'est pas pour la personne. C'est que vraiment, d'abord, enfant, quand j'avais vu ces BD, ce qu'elle arrivait à énoncer de la vie intime des gens, ce qu'elle, il y avait quelque chose de libre et d'incroyablement, comment dire, elle piquait des choses de notre époque. Quand je l'ai lu jeune, mais c'était pour moi une jubilation, d'une libération incroyable.
Ah! Voilà l'article choc de printemps sur la cellulite.
Chouette. On va de nouveau séparer les nodules graisseux et dissocier les cloisons fibreuses.
Non, cette fois, on dissout la graisse fibrosée.
Et on nous injecte ou on nous ionise ?
On nous injecte des corticoïdes.
Bravo ! Les substances radioactives, ce sera pour l'article de septembre.
Il était une fois un docteur X et une demoiselle D qui, à la veille de se marier, était désespérée par son bassin volumineux.
C'est rarement le mec qui est désespéré par son bassin à la veille de se marier.
Dès la cinquième séance, mademoiselle D avait perdu 15 cm de tour de cuisse.
Record battu. J'espère que Dr X a planté un drapeau sur ceux qui restaient.
Attends, c'est prodigieux. Si tu n'as pas de taille, Dr X t'en sculpte une. Oh, c'est ce qu'il a fait à Madame G.
J'espère qu'il s'est arrêté à l'estomac.
Mais Madame G n'en croit pas ses yeux.
Ainsi, tous les jours, la science fait un pas.
Tu crois que c'est du charlatanisme ?
Comment oses-tu dire ça ? C'est un article médical. Quoi d'autre dans Marie-Claire ?
Une interview de Simone de Beauvoir.
Combien de centimètres a-t-elle perdu ?
Dis pas.
C'est une image emblématique.
C'est la même image,
c'est
en fait.
C'est vraiment ouais, les ouais. personnages des années 70, ouais. affalés dans les fauteuils lignes rosées, oui, oui, oui. la clope à la main, la moue un peu vide et les sabots.
Et les sabots, exact. Les sabots typiques de ces années-là.
Les
packs d'œufs. Oui, oui. En fait, ça me remue de voir la couverture hein, où on voit la pose typique des personnages qui hantent les pages des frustrés. Parce que au décès de Claire Bretéché, j'ai fait un dessin d'hommage qui est paru dans l'Humanité Dimanche et j'ai repris cette pose, sauf que c'est Claire Bretéché elle-même, et que le canapé, c'est un nuage qui est dans le ciel et qu'elle fait un commentaire désinvolte sur la déco qui est trop pas terrible, quoi. Bon, la déco d'un ciel ou d'un paradis où j'espère qu'elle se trouve actuellement.
Dans l'exaltation du début, je me dis que je suis un génie. Mais vraiment, je suis un génie. Et au bout de la 20e page, je me dis, je suis une merde. Alors, c'est toujours comme ça. Dès la 2e page, ça commence déjà à grésiller. Mais je crois que, bon, c'est l'imperfection, les imperfections de la vie.
Claire Bretéché, reine de la BD.
Alors, ça là, n'est-ce pas, et ça là.
Un documentaire de Julien Thèves réalisé par Jean-Philippe Navarre. Avec Catherine Meurice, Martin Véron et Jeanne Puchol, dessinatrice et dessinateur. Isabelle Bastion-Duplex, conservatrice au Centre Pompidou. Marie-Rose Guarnieri, fondatrice de la librairie des Abbesses. Jean-Pierre Mercier, historien de la bande dessinée.
Non, pas comme ça, et ça là.
Ah bon ?
Ah oui, c'est épatant, c'est vraiment épatant.
Merci à Marie-Ange Guillaume et Michel Lioré. Extrait des Frustrés, des Mères et d'Agrippine, lu par Marion Trager, Anaël Azarwal et Damien Sobieraf. Prise de son Claire Levasseur, mixage Éric Boisset, Archivina Sandra Escamez. Documentation musicale Virginie Gresset, attachée d'émission Sylvia Favre, coordination Christine Bernard.
C'était Toute une vie, une émission proposée par Anaïs Quien avec Sylvia Favre. Podcast, réécoute, bonus et bien d'autres choses encore à retrouver sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr.